Toujours à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios. On a écouté dans l'ordre, on va remonter un petit peu le temps. À l'instant, c'était les Aligo Éléments, c'est le nom du groupe qui jouait un petit morceau qui s'appelle Sudré. Juste avant, un duo, Jeanne Chéral et Thomas Fersen, avec le morceau La Barmaid. Et avant, un morceau de musique contemporaine, Colo. Et le compositeur, c'est Giacinto Chelsea. Vous écoutez Radio Canu en FM et en stéréo.
Let the flowers grow if they could grow there. But on those pure fields, Claude McKay was born. Young black man turned constable, policeman gone radical. By 1990,
le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir, il est 19h07, on est super à la bourre et c'est l'heure du Canu Info du lundi.
Et donc aujourd'hui à l'international, on ira d'abord voir du côté du Venezuela et de la crise qu'il y a au Venezuela. On passera ensuite du côté de la République démocratique du Congo. On parlera un petit peu de Joseph Kabila. On ira voir du côté de Turin où il y a eu une grosse opération policière la semaine dernière contre un squat politique historique. Ensuite, on passera côté turc, plutôt même du côté des mouvements de l'armée turque au Rojava, donc en Syrie, côté syrien. Ensuite, on passera du côté de la fin de la pénalisation de l'homosexualité héritée de l'Empire britannique dans deux anciennes colonies. Et pour finir, on verra, donc ce serait une bonne transition entre l'international et le national, la France est maintenant prête à renvoyer de nombreux exilés italiens des années de plomb en Italie.
Et au niveau national, on parlera de Finkielkraut et de ses déboires de ce dimanche, de ce samedi d'ailleurs. On parlera enfin des gilets jaunes, parce que ça fait quand même longtemps. Puis de justement des avocats qui se plaignent des dérives dans le traitement judiciaire de ce mouvement et de Blanquer, notre ministre de la Réaction nationale.
C'est l'enjeu de mots. Et au local, donc, on parlera de deux choses dont on parle assez régulièrement. Eh bien, l'amphizette d'abord, et du procès qui a eu lieu ce matin, donc, un bilan de la manifestation de samedi, une fois n'est pas coutume.
Allez, je pense que c'est parti pour aller à Venezuela. Alors pourrait-on parler de l'échec diplomatique de l'Union européenne dans la gestion des crises vénézuéliennes? Donc, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée, parce qu'une délégation composée des 5 députés de l'Union européenne qui répondait à l'invitation de l'Assemblée nationale présidée par Juan Guaido, qui s'est proclamé comme président par intérim le 28 janvier 2019, vous savez. On se rappelle que la décision de Juan Guaido avait créé de plusieurs émeutes dans les quartiers populaires de la capitale en soutien de l'opposant à Nicolas Maduro, soutenu par plusieurs pays, notamment les États-Unis, la France, le Canada, l'Israël, l'Australie.
Attends, Nicolas Maduro soutenu par les États-Unis?
Oui, bien sûr. Non, pas celui que. Non, mais attention, c'est pas celui qui est soutenu. Je cite l'opposant. J'ai bien dit. Écoute très bien ce que je dis. Non.
J'ai eu peur.
D'accord. J'ai dit l'opposant. Écoute très bien. J'ai dit dans les quartiers populaires. Non, mais attention.
Désolé.
Il a mal écouté.
J'ai pas bien écouté.
Ouais, d'accord. Raison, j'ai dit l'opposant de l'autre. Donc l'opposant, c'est qui? C'est Nicolas Maduro. C'est Nicolas Maduro. Et l'opposant, si tu veux très bien, de celui que j'ai dit premièrement, Juan Guaido. C'est ça que je viens de dire. Donc je suis en train de dire que le fait que ce Juan Guaido avait notamment pris la décision de faire si tu m'as interrompu, mais bon, je vais aller. Je vais arriver de toute façon. Dès qu'il s'est proclamé, disons, dans ce pays, on sait qu'il y a eu vraiment des émeutes dans ce pays. C'est ça que j'essaie de dire. Alors, ce n'est pas que les États-Unis, la France, le Canada, l'Israël, l'Australie et d'autres qui soutenaient, disons, Juan Guaido, mais sinon aussi il y a le Brésil, la Colombie, Costa Rica et Honduras, j'en passe. Malgré la puissance, disons, malgré le soutien des pays, disons, comme les États-Unis, vraiment des pays, la puissance étrangère qui vient en soutien à Juan Guaido, Nicolas Camel Maduro montre pour l'instant que c'est celui qui détient le sceptre, j'entends dire, de pouvoir, c'est celui qui décide qui peut rentrer et sortir dans son pays. En tout cas, c'est ce qui nous apprend cette délégation composée des députés, disons des 5 députés, du Parti populaire européen, le principal parti droit du Parlement européen. Il y avait parmi cette délégation la néerlandaise, j'arrive, Esther Lange, et des autres espagnols, José Salafranca et Gabriel Mato Ignacio. J'arrive avec mon espagnol. Elle est quand même, il faut souligner, cette délégation, elle est la toute première délégation internationale à se rendre dans ce pays pour tenter, dit-il, de trouver une solution de sortie des crises. Cependant, il est très difficile de se faire entendre lorsque, si vous voulez très bien, lorsque deux adversaires s'affrontent et qu'on choisisse son camp et on privilégie l'un par rapport à l'autre. N'est-ce pas ce qui arrive à cette délégation? Donc c'est une question qui mérite d'être posée. Pour le moment, le gouvernement Maduro considère cette une visite conspirative, d'après ce qu'ils nous disent. La question de savoir si le gouvernement Maduro était au courant de la visite. Le ministre des Affaires étrangères a tweeté ce matin pour signifier le gouvernement de Nicolas Maduro, soutenu par la Chine et la Russie, avait notifié il y a plusieurs jours au groupe députés qu'il ne serait pas admis et il leur a été demandé de renoncer, d'éviter, pour éviter ainsi une autre provocation. Est-ce qu'une provocation, on attend quand même de voir la suite de ce feuilleton vénézuélien. Donc il faut quand même rappeler, le Venezuela est un pays quand même qui a vraiment des potentiels, disons, dans le carburant et tout. On sait que parmi tous ces pays qui notamment quand même a soutenu son adversaire, même si lui aussi, on ne va pas dire qu'il a fait vraiment de bonnes choses pour le pays, mais et quand même il faut souligner que son adversaire est soutenu par des pays qui quand même détiennent des grandes entreprises quand même qui trouvent leur économie dans l'exportation ou dans l'exportation du pétrole.
Et on passe tout de suite du côté de la RDC.
Oui, on va parler de la République démocratique du Congo, donc qui est quand même le deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie, qui est situé à l'est de l'Afrique vers les Grands Lacs et qui compte 80 millions de personnes. Pour parler de la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, puisque le 24 janvier 2019 a eu lieu l'investiture du nouveau président de la République, donc Félix Tshisekedi, qui est membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, après 17 années quand même de pouvoir de Joseph Kabila. Donc pour rappel, Joseph Kabila avait pris le pouvoir en 2001, il succédait à son père Laurent Désiré Kabila qui avait été assassiné. Et Laurent Désiré Kabila avait pris le pouvoir en 1997 suite à la défaite du régime de Mobutu, qui était resté, lui, 32 ans au pouvoir, sous les assauts de l'AFDL, donc l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Après avoir évincé tous les anciens alliés de son père par diverses techniques, Kabila a été élu en 2006 pour un premier mandat de 5 ans au cours d'élections boycottées par le principal parti d'opposition, donc l'UDPS. Et en 2011, sa majorité s'était déjà un peu effritée avec une première entrée à l'Assemblée nationale de l'UDPS. Et la fin de son second mandat était normalement en 2016. Donc déjà depuis 2003, il y avait des manifestations pour contester son pouvoir, mais il s'accrochait. En janvier 2016, il a voulu imposer une loi électorale pour rallonger son mandat. Mais le peuple congolais ne s'est pas laissé faire et de grandes mobilisations ont eu lieu dans tout le pays. Des grèves, des journées villes mortes, d'énormes manifestations, notamment les 19 et 20 septembre 2016 et les 19 et 20 décembre 2016. 19 et 20, oui, décembre 2016, date à laquelle le mandat aurait dû prendre fin. Et puis l'année suivante, en 2017, aux mêmes périodes. D'ailleurs, ces manifestations ont bien sûr été sévèrement réprimées avec de nombreux morts et de nombreuses arrestations. Donc Kabila s'est accroché 2 ans, reportant chaque fois les élections, mais elles ont fini par être organisées en décembre 2018 sous la pression de la rue. Donc il s'était trouvé un dauphin, Emmanuel Chadari, qui ne faisait même pas l'unanimité des soutiens de Kabila. En face, on avait Félix Tshisekedi, le fils d'un membre connu de l'UDPS, qui bénéficiait d'un large soutien dans sa région natale, le Kasaï, en proie à une crise sécuritaire importante. Et puis enfin Martin Fayoulou, parlementaire soutenu par une autre partie de l'opposition. Donc il faut dire que le mouvement social congolais contre Kabila a été très suivi et très radical. Les classes populaires voulaient le départ de Kabila, dictateur autoritaire, mais pas seulement, ils voulaient la fin des petits jeux politiques, la fin du pouvoir concentré entre les mains de quelques-uns. Et donc il y avait un peu aussi la naissance de ces revendications en disant que Kabila, l'opposition historique représentée par l'UDPS, les politiciens, c'était tous les mêmes. Ils prennent l'argent, mais la vie ne s'améliore pas. Au final, apparemment, il y avait seulement l'Église qui avait conservé un peu une crédibilité aux yeux des classes populaires congolaises. Et c'est quand même Fayoulou qui a trouvé la faveur du plus grand nombre d'électeurs, malgré l'annulation des élections dans 3 districts. Donc ça faisait quand même 800 000 voix empêchées, où il était prévu qu'il gagnerait. La CENCO, donc la Conférence Épiscopale de l'Église du Congo, qui dit s'appuyer sur 40 000 observateurs déployés à travers le pays, a estimé que le score de Fayoulou s'élevait à 60% contre environ 19% pour les deux autres. Donc quand il y a eu la publication des résultats partiels qui annonçaient la victoire de Fayoulou, Kabila a rapidement changé de cheval et a approché Tshisekedi. Comme il savait que la pilule serait trop grosse si c'était son dauphin direct Chadari qui était annoncé vainqueur, c'est les résultats de Tshisekedi qui ont été gonflés jusqu'à atteindre un chiffre suffisant pour qu'il ressorte vainqueur et soit élu président de la République. Donc l'élection de Tshisekedi, elle est non seulement truquée, mais on dirait bien qu'il s'agit simplement de la continuité du règne de Kabila, qui tire encore les ficelles dans l'ombre. Même pas trop dans l'ombre, puisque au jour d'aujourd'hui, aucun gouvernement n'a encore été nommé et les deux hommes se rencontrent plusieurs fois par semaine, comme s'ils gouvernaient un peu à deux, quoi. Donc le mouvement social congolais a reflué pour l'instant, comptant ses blessés, ses détenus et ses morts. Mais il a été l'occasion pour plusieurs groupes de se structurer et de s'étendre, comme la Lucha, un mouvement citoyen né en 2012 à l'est du Congo, là où les conflits continuent de faire ravage. Il s'agit d'une organisation horizontale, surtout de jeunes, étudiants et chômeurs, qui ont commencé par se mobiliser autour du droit au travail des jeunes, dans un pays où leur taux de chômage atteint 60%. En 2013, ils sont passés aux thématiques sécuritaires parce que Goma, la ville d'origine du groupe, était menacée par un groupe armé. Et puis leur mouvement a pris de l'ampleur et s'est étendu dans toute la République démocratique du Congo. Et ils se sont lancés dans la bataille contre Kabila en 2015 avec la campagne Bye Bye Kabila, qui a été une convergence de plein de groupes d'opposition. Ils se sont d'ailleurs éloignés, donc la Lucha, de nombreux autres groupes d'opposition quand Kabila a commencé à en débaucher des membres. Donc le répit pour les vieux hommes qui s'accrochent au pouvoir et qui ne font rien pour améliorer la situation de tous et de toutes ne sera peut-être que de courte durée. Les Congolais attendent de voir ce que donne Félix Tshisekedi, mais ils seront peut-être de nouveau bientôt dans la rue.
Si tu permets sans transition, je voulais juste parler de la Guinée parce que c'est la même situation que se passe actuellement avec l'opposant historique qui a fait pendant 40 ans, il a combattu pendant 40 ans pour instaurer la démocratie. En 8 ans qu'il est au pouvoir, quand même, il n'a pas réussi à organiser des élections libres et transparentes. Et les dernières élections qui ont été organisées datent de 4 février 2018 et jusqu'à maintenant 2019, on n'a pas fini d'installer, si vous voulez, les élus locaux, les élus ici de cette élection. Et la dernière manifestation, pas la manifestation, l'accueil de l'opposant historique la semaine dernière, c'est le Dalain Diallo qui était au Sénégal et en Europe, qui est rentré. Il a été, disons, parce qu'il a été bousculé et sa voiture, d'abord, avant ça, il a été quand même survécu de justice parce que sa voiture a été tirée une fois, mais le dernier exemple en date d'avant-hier quand il était rentré du Sénégal et quand il est arrivé, disons, il y a eu des forces de l'ordre de la police aussi qui ont quand même voulu l'assassiner parce que sa voiture a été endommagée devant comme derrière, donc c'est des forces de l'ordre qui ont quand même reçu de l'ordre de l'attaquer. Et si vous voulez, le problème actuel, le président actuellement, il a installé des PIA sur la jaune, donc sur une zone qui est appelée Axe de la démocratie, que eux d'abord ils l'appellent Axe du mal, et dans cette zone, c'est une zone réputée être favorable à l'opposition. Alors l'enjeu c'est quoi? C'est pour 2020, puisque normalement Alpha Condé il est en fin de son mandat, c'est son dernier mandat selon la constitution, et aujourd'hui ce qu'il veut c'est modifier la constitution et notamment se présenter pour une deuxième fois. Donc c'est le même cas qui risque de se répéter en Guinée, et si toutefois on verra quand même, je pense que l'année 2020 s'annonce aussi difficilement pour tous les Guinéens et tous ceux qui combattent, disons, la dictature.
C'est malheureusement un grand classique dans les anciennes colonies françaises ou britanniques, donc de nombreux pays africains ces dernières années. Alors on enchaîne et on revient en Europe. On va aller du côté de Turin où un squat politique et d'habitants historiques a été expulsé la semaine dernière. Quand je dis la semaine dernière, c'est la semaine encore d'avant que celle à laquelle vous pensez. Donc ce squat, c'est l'asilo. On aurait pu le faire la semaine dernière, mais on n'était pas assez nombreux. Donc voilà. Ce squat, c'est l'asilo. Donc c'est dans le quartier d'Aurora à Turin et il était occupé depuis 1995. C'était un squat d'habitation, d'Italiens comme de migrants, mais aussi et surtout un lieu d'organisation politique contre les politiques dites de rénovation urbaine mises en œuvre dans le quartier, c'est-à-dire contre les politiques de gentrification, contre les expulsions de logements, contre les centres de rétention, contre les rafles, contre la prison, contre la construction de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, etc. Donc s'attaquer à ce lieu, c'est s'attaquer à toutes ces luttes. Les flics ont dû quadriller et boucler tout le quartier avant de procéder à l'expulsion qui a duré plus de 30 heures. Plusieurs habitants ont réussi à monter sur le toit de cette ancienne école, soutenue en même temps par de nombreux rassemblements et manifestations spontanées dans le quartier. Les flics ont, une fois les barricades du squat défoncées, interpellé 7 personnes, dont 6 qui ont été placées en détention provisoire à la prison de Turin. Elles sont accusées d'association de malfaiteurs à visée subversive. Hein, ça nous fait un petit peu penser à ce qui se passe en France, qui est en quelque sorte le joker de l'arsenal répressif italien contre les militants révolutionnaires. Alors, selon les médias italiens, ces 7 personnes sont soupçonnées d'avoir participé à 21 attaques, rien que ça, entre 2015 et 2018, contre des entreprises qui collaborent à la machine à expulser, de la construction à la gestion des centres de rétention. En grande partie responsable de cette expulsion et de la militarisation du quartier, eh bien c'est le maire de Turin, Chiara Appendino, qui est membre du Mouvement 5 étoiles, allié donc de la Ligue du Nord au gouvernement actuellement, dont le chef est Luigi Di Maio. Le Mouvement 5 étoiles montre ici une nouvelle fois son vrai visage. Et contrairement à ce que nous disent les médias de masse, eh bien c'est un visage de l'extrême droite, rouge-brun, moins ouvertement fasciste que la Ligue du Nord, certes, mais facho quand même, qui s'organise contre les migrants, qui met en place des politiques sécuritaires et qui expulse des squads politiques et des squads de migrants. Alors en face, ça s'est quand même organisé, avec notamment une belle manifestation de 1000 personnes là, la semaine dernière. Derrière une banderole, ils font la guerre aux pauvres et l'appellent « rénovation urbaine ». Manifestation offensive et déterminée, empêchée de rentrer dans le quartier par les flics italiens, mais laissant derrière elle de nombreuses traces et barricades enflammées. Dans plusieurs villes italiennes et même en Grèce ou au Mexique, des actions de solidarité ont eu lieu. Donc on souhaite bon courage aux camarades turinois pour continuer leurs différentes luttes qui sont légitimes et pour se retrouver un nouveau lieu aussi bien que l'Aliso, au moins aussi bien.
On va faire un petit tour du côté du Rojava. Alors, on se souvient l'an dernier de la percée de l'armée turque dans la région kurde d'Afrin, avec les conséquences qu'on connaît, des pillages, des déplacements de population, des viols. Alors que là, les Kurdes sont à la tête de l'offensive terrestre contre l'État islamique et sont probablement ceux qui ont connu le plus de pertes humaines dans cette guerre, ils se retrouvent aujourd'hui de nouveau confrontés au péril turc. Pour rappel, hein, les Kurdes, ils administrent le territoire du Rojava alors même que l'État syrien n'est plus en mesure de s'y maintenir. Et malgré tout ça, et comme d'habitude, on est obligé de s'inquiéter pour la suite, puisque donc de nombreux mouvements de l'armée turque ont lieu en ce moment même à la frontière syrienne. En même temps, Trump annonce le retrait des troupes américaines. Donc on laisse une fois de plus le champ libre, à l'assassin Erdogan pour tuer, piller et déposséder de son territoire le peuple kurde. Donc on souhaite bon courage aux copains sur place et on appelle à les soutenir massivement partout où c'est possible.
Et sans transition,
Transition, ou avec une transition foirée.
Juste un petit blanc.
C'est donc la fin de la pénalisation de l'homosexualité dans 2 anciennes colonies de l'Empire britannique. Donc c'est peut-être bientôt la dépénalisation de l'homosexualité au Kenya. Dans 4 jours, le 22 février, la justice kényane va décider si elle met fin à la criminalisation de l'homosexualité. Et ce pays deviendrait alors l'un des rares pays d'Afrique à ne pas condamner l'homosexualité pénalement. Donc cette bataille judiciaire a débuté en 2016 avec le dépôt d'une requête devant la Haute Cour de Justice de Nairobi. Et le jugement devait avoir lieu à l'automne 2018, mais un jugement qui a été prononcé en Inde a changé la donne, puisque le 6 septembre 2018, la Cour suprême de Delhi a abrogé une loi qui criminalisait l'homosexualité. Donc la justice kényane a décidé d'interrompre le processus en cours pour réécouter toutes les parties à la lumière de la jurisprudence indienne. On saura donc bientôt si ce jugement indien a fait jurisprudence et a fait basculer la cour. Donc comme en Inde, les peines de prison prononcées contre les homosexuels sont assez rares au Kenya, mais la criminalisation autorise les violences, plus de 1000 recensées en 5 ans, et la stigmatisation. Et contrairement à l'argumentaire qui est tenu par une partie de la société kényane, notamment le président qui a déclaré que les droits des gays étaient un non-problème pour les Kenyans, ou encore l'Église qui, elle, s'est carrément constituée partie indépendante dans la bataille juridique. Donc, argumentaire selon lequel l'homosexualité serait importée d'Occident et contraire à l'africanité. Il faut rappeler qu'au Kenya, comme en Inde, la criminalisation de l'homosexualité est un reste de l'époque coloniale. En 1897, les Britanniques ont promulgué 2 articles du Code pénal qui punissent la connaissance charnelle contraire à l'ordre de la nature, d'une peine allant jusqu'à 14 ans de prison. Et le pays ne s'en est finalement jamais défait. Donc c'est bien ce que rappellent plusieurs membres d'associations pour les droits des personnes LGBTI au Kenya, que ces lois ont été introduites par les colons à une époque où ils essayaient de contrôler la sexualité africaine, où, je cite, ils nous prenaient pour des primitifs en nous disant comment nous comporter. Et je cite encore, considérer qu'être queer et non africain, c'est nier des modes de vie qui ont existé sur ce continent depuis bien longtemps. Affaire à suivre donc dans 4 jours.
Et on revient du côté de l'Italie, puisque après l'arrestation de Cesare Battisti, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois ici, le désormais bien trop présent ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a bel et bien déclaré la guerre aux activistes des années plomb et voudrait bien toutes et tous les voir revenir peupler les prisons italiennes. Alors en quelques mots, les années de plomb en Italie, c'est une période de tension politique extrêmement forte qui s'étend en gros de la fin des années 60 au début des années 80. Comme en France et en Allemagne, à cette époque, vont émerger des groupes pratiquant la lutte armée. Il va y avoir des séries d'attentats, d'enlèvements ou d'assassinats qui visent la plupart du temps des flics, des juges ou des politiciens. L'assassinat d'Aldo Moro en 78 constituera l'un des événements les plus marquants de la période. Alors, parmi les groupes armés qui commettent ces attentats, les plus connus et nombreux sont les Brigades Rouges, mais beaucoup d'autres groupes vont émerger, comme Prolétaire Armée pour le communisme, Prima Linea, Fronte Armato Rivoluzionario, Operaio, etc., etc. Je ne fais pas la liste puisqu'en 77, ils sont plus de 91, il y a plus de 91 organisations armées en activité et un mouvement extrêmement fort de l'autonomie ouvrière qui secoue tout le pays. Bon, à la différence de l'Allemagne et la France, vous l'aurez compris, ces groupes représentent des milliers de personnes. Du coup, au début des années 80, il va y avoir une répression extrêmement forte dans cette extrême-gauche extra-parlementaire en Italie et des centaines d'Italiens vont chercher refuge dans les pays voisins, particulièrement la France, où Mitterrand, déjà pendant sa campagne, a fait pas mal de promesses pour leur accueil. En 85, donc 4 ans après son élection, il prend position clairement et affirme donc offrir l'exil à celles et ceux qui ont rompu avec la lutte armée et surtout contre lesquels l'Italie ne peut pas fournir de dossiers vraiment sérieux pour justifier donc ces extraditions demandées par l'Italie. C'est ce qu'on appelle la doctrine Mitterrand. En réalité, c'est un discours qui n'a aucune valeur juridique et qui va laisser, depuis 85, le sort des exilés aux mains des volontés politiques des uns et des autres. C'est particulièrement ce qui se passe depuis le début des années 2000, puisque la France réexamine les demandes d'extradition. Donc Paolo Percicchetti en fera les frais en 2000. 4 ans plus tard, c'est Cesare Battisti qui va devoir fuir la justice française et italienne pour rejoindre le Brésil de Lula, puisqu'il allait être extradé. En 2008, Fillon signera aussi l'accord d'extradition de Marina Petrella. Alors, Sarkozy finira par y renoncer quelques mois plus tard en raison de la santé de Marina Petrella et de ce qu'il appelle la clause humanitaire. Mais voilà, le mois dernier, Matteo Salvini remet le couvert en déclarant vouloir s'inviter chez Macron. Oui, lui aussi, il veut aller le chercher chez lui pour demander l'extradition des activistes. Donc selon lui, en tout cas il y aurait 14 personnes qui ont trouvé refuge en France qu'il souhaiterait voir revenir en Italie très rapidement. Cette liste n'a pas été fournie par les autorités italiennes, mais visiblement y figurait notamment Marina Petrella, donc ex-brigadiste déjà menacée d'extradition en 2008, je le disais tout à l'heure, ou encore Enrico Vilimburgo. Les deux ont été condamnés à perpète pour le meurtre d'Aldo Moro, ou encore Giorgio Petrostefani, qui est le fondateur de l'Ota Continua, ou Narciso Manenti, qui est condamné pour le meurtre d'un carabinier. Voilà, aujourd'hui, donc on n'est pas sûr que ces personnes y figurent, puisque l'Italie refuse de donner les noms. À la presse en tout cas. Donc aujourd'hui, Nathalie Loiseau, qui est ministre des Affaires européennes, pour ceux qui ne le savaient pas, je l'ai appris ce matin, a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de refuser ces demandes d'extradition, qui seront donc étudiées au cas par cas. C'est donc, a priori, va y avoir des extraditions dans les mois qui viennent. Pour rappel, hein, en France, il y aurait au moins 350 ex-brigadistes. En fait, probablement beaucoup plus, surtout si on élargit aux autres groupes de lutte armée de l'époque. Un certain nombre ont été jugés lors de procès expéditifs et par contumace à des peines extrêmement lourdes, sans qu'il y ait de preuves formelles qui est apportées. Et je rappelle à toutes fins utiles que l'Italie ne prévoit pas de nouveaux procès lors du retour des condamnés par contumace. C'est pourtant une exigence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un argument juridiquement tout à fait recevable pour refuser ces extraditions. On espère au moins que des juges sauront refuser ces demandes tout à fait politiques et qui émanent, on le rappelle, d'un gouvernement très très à droite et d'un ministre de l'Intérieur qui l'est encore plus.
Et qui serait validé par un gouvernement qui n'est pas censé être d'extrême droite en France, mais qui est visiblement, qui fait comme Bolsonaro au Brésil, qui est prêt à extrader ses militants.
Et qui se situe dans la ligne droite de Nicolas Sarkozy.
Dans la ligne droite.
Qui pourtant avait fini par refuser. Apparemment, ce serait Carla Bruni qui aurait intercédé en faveur de Marina Petrella. C'était le petit instant gossip du... Du Canu Info.
Et donc on enchaîne, puisqu'on a pas mal parlé de l'Italie, avec un son italien, donc Assalti Frontali Profondo Rosso.
Qualche cosa nasce, qualche cosa muore. E porto con me un dolore che viene da lontano, lontano. È un richiamo. Le spugne galleggiano un po'. Assorbono, assorbono. Ma tutto ciò che assorbo affonda, io affonderò. Prendo un po' di calma, voglio stare a galla. Come quella volta alla porta di Ramalla. Ho chiuso gli occhi, ho aperto il mio cuore. Perché ogni giorno qualche cosa nasce, qualche cosa muore. E porto con me un dolore che viene da lontano, lontano. Tornavo a casa già distrutto, ripensavo a tutto, canticchiavo il bello il brutto, elaboravo il lutto di quello che ora è andato e quello che ho perduto. Perché non siamo niente, io sono un sopravvissuto, ma il cuore va, il cervello va, vanno i nervi e i muscoli. Siamo così forti, fragili e minuscoli, e non importa se avrò vinto o perso, io sono diverso, accendo il fuoco e resto loco, anche se scherzo e qualcosa dentro è morto, e prende lo sconforto, il sogno è già finito ed era così corto. Dove volevo andare, cosa volevo fare? Dovevo perderlo il mio sguardo e poi dimenticare. Ma resta ancora qui, tra l'esplosione e il fumo. Se non la faccio io sta strada, non la fa nessuno. È un pezzettino, è vera, è mia poesia in questa città. Ci manca molta fantasia per sopportare la realtà. Le spugne galleggiano un po', assorbono, assorbono. Ma tutto ciò che assorbo affonda, io affonderò. Prendo un po' di calma, voglio stare a galla. Come quella volta alla porta di Ramalla. Ho chiuso gli occhi, ho aperto il mio cuore. Perché ogni giorno qualche cosa nasce, qualche cosa muore. E porto con me un dolore che viene da lontano, lontano. È un richiamo. E ora Assalti che dice, militanta che dice. Io senza lotta non so essere felice. A Roma che si dice, la vita che dice. Un segno in faccia che non è una ruga, è una cicatrice. E credo ancora, credo sempre, credo a tutto. Come un neonato, qualcosa è morto ma qualcosa è anche nato. E torno a casa nel macello, canticchiando è bello. Il brutto è brutto, il bello dentro il mio cervello. Accarezzando un coltello che ho sempre in mezzo ai denti. Noi lo cambiamo il mondo, non lasciamo tutto come in mezzo ai venti. Tra palazzine, fari, luce delle insegne. Chi vedo, vedo i miei, le persone degne. E lascio i dubbi filosofici, ho la mia disciplina. Faccio i miei gesti meccanici, parlo con la rima. Con una voce dentro, dagli abissi del tempo. Qualcuno da laggiù mi ha lasciato un testamento. E resto ancora qui, tra l'esplosione e il fumo. Se non la faccio io sta strada, non la fa nessuno. È un pezzettino, è vero, è mia poesia in questa città. Ci manca molta fantasia per sopportare la realtà. Le spugne galleggiano un po', assorbono, assorbono. Ma tutto ciò che assorbo affonda, io affonderò. Prendo un po' di calma, voglio stare a galla. Come quella volta alla porta di Ramalla. Ho chiuso gli occhi, ho aperto il mio cuore. Perché ogni giorno qualche cosa nasce, qualche cosa muore. E porto con me un dolore che viene da lontano, lontano. È un richiamo. Le spugne galleggiano un po', assorbono, assorbono. Ma tutto ciò che assorbo affonda, io affonderò. Prendo un po' di calma, voglio stare a galla. Come quella volta alla porta di Ramalla. Ho chiuso gli occhi, ho aperto il mio cuore. Perché ogni giorno qualche cosa nasce, qualche cosa muore. E porto con me un dolore che viene da lontano, lontano. È un richiamo.
Attention.
Oh, et quelle transition incroyable. C'est génial. Et du coup, oui, c'était Asalti Frontali et c'était Spugné la chanson et pas du tout Profondo Rosso. Je sais pas pourquoi t'as dit
mais
ça.
Mais c'est pas de ma faute puisque c'est elle qui a fait le conducteur. Okay. Hein, qu'on se le dise.
Du coup, si le micro en technique fonctionne, on va pouvoir parler de Alain Finkielkraut et on est très très content.
On est super content. Le micro a l'air de super.
Il marche bien, ouais.
Mais oui.
Non, vous m'entendez
mais
quoi
oui, non, mais
on t'entend,
c'est
super bien,
hein.
Très
fort. Okay, non, mais c'est
okay, notre but, c'est que l'émission marche quand même. Hein, donc,
On va pas faire un blanc de 5 minutes.
Non, non, mais ok, mais moi je m'entends absolument pas, c'est génial. Mais c'est pas grave, si les autres m'entendent, c'est ce qui compte. Donc, ce samedi, comme à peu près toute personne a pu échapper à cette information, notre cher nouveau philosophe et grand homme.
Pas si nouveau que ça, excuse-moi, mais.
Il appartient au
Le mec, il sent quand même le fond de tiroir.
Non, mais il appartient au mouvement des nouveaux philosophes. Oui, c'est pas un nouveau philosophe, oui, c'est plutôt un ancêtre.
J'ai un peu périmé le mec, quand même, pour un nouveau philosophe.
Mais tu peux être un nouveau philosophe et être, avoir
une périmé, c'est vrai. Il y en a d'autres.
L'un n'empêche pas l'autre. Donc, il accompagnait, enfin, selon ses dires, sa belle-mère en fait chez elle. Et ayant vu quelques, un peu d'animation au bout de la rue, est allé voir et a fini par se retrouver au cœur d'une manifestation des Gilets jaunes.
C'est pas de bonne, c'est pas de
pauvre petit. Et donc, okay. Sauf que, évidemment, très très rapidement, évidemment, déjà, beaucoup de caméras s'étaient braquées sur lui, et évidemment, et en même temps, un certain nombre de manifestants l'ont reconnu, et comme c'est un peu une tradition parisienne, l'ont expulsé de la manifestation. On rappellera pour ça sa magnifique tentative de venir visiter les gens de Nuit Debout à Paris. Oui, ça a été encore un grand moment. Ce qui s'est passé.
Donc, couillon, ce
mec. Un peu, des fois, on se demande s'il cherche pas. Mais donc ce grand réactionnaire notoire et pseudo polémiste et donc habitué à venir se faire jeter de tous les mouvements sociaux dans lesquels il pourrait se faire voir et évidemment peuvent faire en sorte qu'on puisse parler de lui. Sauf que régulièrement, il est vrai par contre, il est attaqué sur ces questions sur sa religion, Finkielkraut étant de confession juive, mais régulièrement il y a des vraies polémiques sur ces questions-là, ce qui est un véritable problème en France et comme l'ont montré régulièrement une augmentation des actes antisémites. Mais ce que Finkielkraut lui-même a reconnu et que la retranscription des vidéos ont démontré, c'est qu'à aucun moment, en fait, les manifestants ont utilisé, en fait, un vocabulaire antisémite, mais un vocabulaire antisioniste. Et il lui a été reproché, en fait, d'être profondément sioniste, et de s'attaquer régulièrement dans les médias et dans ses prises de position à l'État d'Israël, à l'État de la Palestine, pardon, et à un certain nombre de positions de défense de l'État israélien.
Je crois que c'était pas aussi développé que ça, il a surtout été traité de haineux.
De haineux, mais oui, il y a écrit dans la retranscription totale, on voit sioniste, il y a des gens qui criaient Palestine, un certain nombre qui permettent vraiment de catégoriser et de politiser en fait cette intervention et ce rejet, et non de le traiter comme il peut l'être régulièrement sur les questions purement religieuses. Cette pathétique affaire aurait pu s'arrêter là après quelques invitations sur les différents plateaux où il a ses habitudes, mais sauf que évidemment, un certain nombre de parlementaires ont utilisé ce fait divers pour relancer un de leurs projets de loi visant à condamner toute attaque antisioniste comme étant des attaques antisémites, faisant donc le lien direct entre la défense de l'État d'Israël et l'insulte et la haine des personnes de confession juive. Comme ainsi peuvent le rappeler le député La République En Marche, Sylvain Maillard, donc, qui est à la base en fait, de ce projet de loi, selon lui, la haine d'Israël est une nouvelle façon de haïr les juifs. On peut critiquer le gouvernement d'Israël, mais pas remettre en cause l'existence même de cet État. Personne ne remet en cause l'existence même de l'État français ou de l'État allemand.
C'est un scandale.
C'est faux. C'est-à-dire qu'on peut lui présenter des gens dans ce studio.
Dans ce studio, par hasard, qui remettent très régulièrement en cause l'existence de l'État français.
De tous les États, même.
Quel que soit l'État, clairement, qu'il soit ici ou ailleurs dans le monde. Et de fait, il y a de très nombreuses personnes, quelle que soit leur confession, et notamment beaucoup de personnes de confession juive à travers le monde remettent totalement en cause l'existence en fait d'un État israélien, notamment d'un État israélien totalement basé sur des fondements religieux et qui encore plus de monde critique sa politique locale vis-à-vis notamment de la Palestine et sa politique internationale qui est totalement délirante. Ainsi, Ainsi donc, très récemment, hier je crois, l'État d'Israël n'a pas trouvé mieux à faire comme une sorte de parent qui n'est pas content de la façon dont ses enfants utilisent leur argent de poche, a décidé de bloquer plus de 138 millions de dollars d'impôts qui en fait auraient dû revenir à l'État de palestinien, simplement parce que selon eux, ils n'utilisaient pas de la bonne façon. Donc voilà, régulièrement, on va pas, je vais pas revenir sur l'occupation, les colonies, en fait, le traitement totalement délirant que peut être fait par l'État d'Israël de toutes les personnes arabes et de l'État palestinien qui est à côté. Et on va se retrouver avec maintenant une interdiction totale, si cette loi passe, de critiquer l'État d'Israël et en étant immédiatement assimilé à une haine des Juifs. Pour avancer sur ce débat et pour des personnes qui aimeraient creuser sur la question, j'aimerais recommander, c'est d'instant pub de Radio Canu, un très bon ouvrage quand même, avec des débats qui ont tourné un peu partout, d'un auteur qui s'appelle Dominique Vidal, qui est lui-même de confession juive et qui revient en fait justement sur le titre, c'est « Antisémitisme est-il égal à antisionisme ?» et qui revient donc longuement et de façon extrêmement intéressante pour démontrer qu'il n'y a évidemment absolument aucun lien entre les politiques d'un État et la critique qu'on peut en faire et la haine qu'on peut avoir pour des gens qui ont une religion et qui peuvent la pratiquer comme bon il le semble.
Si je peux me permettre quand même, pour revenir sur Alain Finkielkraut, le traité de sale race au milieu d'accusations d'être un sioniste, c'est quand même probablement condamnable. Il faut rappeler et lutter contre les dérives antisémites ou racistes ou islamophobes aussi au sein des Gilets jaunes. Après, bon, on ne saura jamais si ce mec a dit ça comme ça, parce que sale race, c'est une insulte qu'on utilise assez facilement, finalement. Mais bah, c'est...
Nous, non.
Ça... C'est-à-dire... Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ça t'arrive combien de fois par jour, à peu près?
Oui, non, à aucun moment, il y avait une quelconque défense de ce genre des propos et de l'agression dont cette personne a pu subir, bien sûr. Mais la problématique est clairement le traitement médiatique de cette affaire. C'est-à-dire que moi, un simple fait divers qui peut être hautement condamnable a été totalement transformé et va être utilisé par un certain nombre de politicards délirants pour, en fait, renforcer la position de l'État israélien sur une scène internationale où il n'a absolument pas besoin d'être défendu et où, en fait, on est en train de faire des amalgames totalement délirants entre la religion et la position d'un État.
Et bien, du coup, continuons sur les Gilets jaunes. Pas tous antisémites, quand même.
Non, loin de là, carrément. Alors, petit tour de France non exhaustif hein, sur ce qui s'est passé samedi. Alors, selon le gouvernement, 41 500 Gilets jaunes ont manifesté pour l'acte 14 contre 51 400 la semaine passée. Bon, après, on a un peu de mal à le croire, le gouvernement. On lui fait moyen confiance pour les chiffres, puisque par exemple, il y a trois semaines, à 14h, et relayé par tous les médias de masse, ils annonçaient 18 000 manifestants, alors qu'il y avait déjà 13 000 manifestants à Paris, 8 000 à Bordeaux, 3 000 à Valence et 2 000 à Lyon, ce qui fait déjà 28 000 manifestants pour seulement 4 villes. Donc on s'est dit que peut-être le gouvernement minimisait un peu, avait une fâcheuse tendance à dire que le mouvement des Gilets jaunes diminuait en termes de nombre, alors qu'en réalité, ce n'est pas réellement le cas. On préfère d'ailleurs les chiffres de nombre jaune, c'est le recensement pro-gilets jaunes qui comptabilise pour samedi 101 400 manifestants sur toute la France, soit plus du double que l'annonce gouvernementale. Alors, à Paris, il y aurait eu jusqu'à 15 000 manifestants, encore beaucoup de violences policières hein, qui pètent littéralement un câble dans la capitale. Notamment, il y a eu beaucoup de témoignages rue Lauriston dans le 16e arrondissement, donc l'arrondissement bourgeois. Les flics se sont déchaînés sur un groupe de plusieurs centaines de gilets jaunes en laissant plusieurs personnes à terre, blessées et même en rentrant dans un Franprix. C'est pas la première fois qu'ils font ça, hein, mais là ils sont rentrés dans un Franprix où certains gilets jaunes s'étaient réfugiés et leur ont cogné dessus. Puis il y avait aussi juste des gens qui faisaient leurs courses, donc ont été profondément choqués, hein, et les témoignages affluent pour prouver ces nouvelles exactions. Alors juste pour rester sur Paris, on peut noter aussi que vendredi en fin d'après-midi à Tolbiac, une vingtaine de militants de l'Action française a attaquer des étudiants mobilisés contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers au cri attendez, vous à quelque chose d'intéressant pour la France, vive le roi. Et oui, et bah c'est Action française en même temps. Hein. Alors, les FAF armés de pavés, gazeuses et bâtons se sont fait têche par les vigiles, notamment, et quelques étudiants aussi mobilisés et n'ont pas blessé grand monde, et c'est tant mieux. La mobilisation a encore une fois
était très forte à Bordeaux, avec au moins 5000 personnes, puisque ce sont les chiffres de la police et de la préfecture. Donc on peut probablement rajouter 2 ou 3000 de plus, avec de très nombreux affrontements lors de cette journée du samedi. À Toulouse également, comme à Bordeaux, qui est une des villes les plus mobilisées de France, il y avait au moins 5000 ou 6000 personnes, avec en tête de cortège des banderoles fâchés mais pas fachos, dinosaures capitalistes tremblés, le monde va changer, ou encore seule la mort nous arrêtera. Alors, écoute, s'il y en a qui ont envie de mourir pour la cause, ils ont le droit. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la Révolution.
Je noterai que j'ai moi-même le micro jaune. Hein, donc.
Alors, à Toulouse toujours, on a appris ce matin que des perquisitions avaient eu lieu ces derniers jours chez des militants considérés comme appartenant à la mouvance extrême-gauche, ultra-gauche, avec des saisies de matériel informatique. Alors, quel en est le résultat de ces perquisitions ? Eh bien, rien, puisque le procureur a déclaré, je cite, « Les éléments résultant des perquisitions n'ont à ce jour donné lieu à des mises en examen supplétives », ce qui signifie que ça n'a rien donné, il n'y a pas de preuves matérielles supplémentaires, et en fait, il n'y a aucune preuve matérielle. C'était juste un coup de pression sur des militants en lien supposé avec l'extrême ou l'ultra-gauche, dans une ville qui constitue un bastion des Gilets jaunes, et où la tonalité politique est bien plus qu'ailleurs du côté de la gauche révolutionnaire. Alors, ils sont quand même mis en examen pour association de malfaiteurs, hein, ces personnes qui ont été interpellées. Et selon Mediapart, hein, qui a révélé l'affaire, c'est seulement sur les fameuses notes blanches de la DCRI, donc des services de sécurité intérieure français, que sont basés les flics et les procureurs pour faire cette interpellation. Donc ces notes blanches, pour rappel, ce sont des fiches qui sont non datées et non signées, avec des informations, c'est-à-dire des preuves non matérielles sur tel ou tel individu, et qui sont parfois utilisées dans des procès ou pour mener des perquisitions ou des enquêtes.
Dans un flou juridique absolument total. Hein.
Dans un flou juridique
quand
absolument.
À la fois leur élaboration et leur conservation.
Voilà, donc on est en dehors d'un cadre légal bien souvent, hein, par rapport à ces notes blanches. Dans les villes classiquement mobilisées, Rouen, Lille, Caen, la mobilisation a été très importante. À Montpellier également, et on pourra noter quand même la présence de 134 vigiles dans le centre-ville pour protéger les commerçants et les clients dans les commerces bourgeois. Bref, bien loin du discours médiatique, la mobilisation n'a pas l'air de désamplifier tant que ça. Par contre, la répression, elle continue d'augmenter. Au 12 février, selon le ministère, il y avait 1800 condamnations. Là, c'est pas selon le ministère, mais selon nos chiffres à nous, 150 blessés graves à l'échelle nationale, 6 mains arrachées, 21 personnes avec un œil en moins, une personne qui a perdu l'audition et toujours, on le rappelle, une personne décédée à Marseille le 1er décembre suite à des tirs de gaz lacrymogène. C'était une personne qui avait 80 ans. Voilà.
Et on continue avec les gilets jaunes et la colère des avocats.
Des avocats, oui. Alors parce que en dehors des blessés, le mouvement des Gilets jaunes, en ce moment, maintenant, c'est apparemment plus de 5000 gardes à vue et plus de 800 comparutions immédiates. Et une tribune a été publiée par une soixantaine d'avocats au début du mois, qui recense les dérives qu'ils ont constatées dans le traitement judiciaire des Gilets jaunes. Ils s'inquiètent de procédures faites dans l'urgence et qui, selon leurs mots, ne servent qu'à gonfler de manière artificielle des chiffres qui seront annoncés par le ministère de l'Intérieur. Parmi leurs constats, ils relèvent des expulsions de la voie publique illégales, violant le droit de manifester. Des poursuites pour des motifs incohérents, par exemple occupation illégale de l'espace public pour quelqu'un qui se serait arrêté quelques minutes au bord d'un rond-point. Certains avocats se plaignent de ne pas être tenus au courant des suites judiciaires décidées par le parquet. Ils dénoncent aussi une pression exercée sur les gilets jaunes durant des auditions libres ou des gardes à vue, afin qu'ils ne prennent pas d'avocat, avec pour argument qu'ils seraient libérés beaucoup plus tardivement. La généralisation des comparutions immédiates s'appliquait à des gens peu informés sur leurs droits et indépendamment de leur absence ou non d'antécédents judiciaires. Une forme d'atteinte à l'indépendance des magistrats par le biais des déclarations publiques du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et d'Emmanuel Macron, entre autres membres du gouvernement, demandant que les réponses judiciaires soient sévères. Il semblerait d'ailleurs que ces consignes soient suivies, étant donné que les avocats en question remarquent que les peines de prison ferme ne sont pas données sur les critères habituels, et ils remarquent de manière générale des peines beaucoup plus sévères et parfois inadaptées. Et ils dénoncent aussi des contrôles judiciaires pouvant durer plusieurs mois, accompagnés d'interdictions contraignantes et sans lien avec les faits reprochés. Comme par exemple les interdictions de se rendre dans une ville, même s'il s'agit du lieu de travail, les interdictions de conduire tout véhicule, même si ça n'a rien à voir avec les faits reprochés, ou l'interdiction de sortir de chez soi. Et de l'autre côté de cette justice express, la tribune mentionne qu'il est par contre long et laborieux d'identifier et de poursuivre un policier pour violence policière. Et donc dernier point, il dénonce aussi le projet de loi anti-casseurs. Dans les premiers signataires de la tribune, il n'y a pas d'avocat lyonnais, mais pour vous rendre compte de la réalité des faits dénoncés, ici aussi à Lyon. Vous pouvez aller lire les comptes rendus des comparitions immédiates des Gilets jaunes, puisque des personnes s'y rendent tous les lundis et prennent la peine d'en faire un résumé sur Rebellion. Vous y apprendrez par exemple que des lunettes de piscine sont la preuve qu'on voulait casser des choses, ou que courir pour fuir des gaz lacrymo sont aussi la preuve qu'on avait quelque chose à se reprocher.
On enchaîne avec Blanquer, le ministre de la Réaction nationale. Donc, vous avez sûrement été nombreux et nombreuses à être horrifiés de l'annonce de la future présence obligatoire du drapeau français, ainsi que des paroles du refrain de l'hymne national dans chaque salle de classe des établissements du premier et du second degré, qu'ils soient publics ou privés sous contrat. Donc, c'est un amendement qui a été proposé par Éric Ciotti des Républicains.
Un
grand progressiste bien connu, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'école de la confiance, voté par l'Assemblée nationale, donc cet amendement approuvé, et qui avait immédiatement été ouvertement approuvé par Blanquer, le ministre La République En Marche de l'Éducation nationale. En fait, Blanquer semble vouer une admiration sans faille à Ciotti et cherche à devenir lui-même le champion de la réaction dans les écoles, on dirait, à tel point que même ses petits copains-copines de La République En Marche commencent à trouver ça un peu trop quand même. Début janvier, déjà, son idée de supprimer le versement des allocations familiales pour les parents d'enfants violents à l'école avait suscité une levée de bouclier de plusieurs députés de son propre parti. Et cette idée était déjà inspirée par Éric Ciotti, qui était à l'origine en 2010 d'une loi très contestée permettant de supprimer les allocations familiales aux parents d'élèves absentéistes. Donc,
il y a varié un peu, là c'était pour les élèves violents.
C'est une vieille marotte.
Donc les allocations familiales, les drapeaux, l'hymne, la Marseillaise dans les classes. Et puis un épisode a vraiment particulièrement irrité certains députés LRM. Quand Éric Ciotti a déposé un amendement pour interdire le port du voile aux accompagnatrices scolaires, Blanquer a juste proposé de l'adopter tel quel aux députés de la majorité, ou de l'approuver en le sous-amendant. Donc ça a quand même heureusement provoqué la fureur de pas mal de députés LRM. Et une trentaine donc, se sont opposés au choix du ministre lors d'une suspension de séance. Il n'est pas facile à discipliner, puisqu'ils ont quand même dû faire appel au porte-parole du gouvernement pour qu'il le fasse plier. Et cet amendement, il a finalement dû rendre un avis défavorable à cet amendement, qui donc a été rejeté lors d'un vote de l'Assemblée nationale. Sans oublier de souligner qu'à titre personnel, il n'était pas en faveur du port du voile lors des sorties scolaires.
Merci. Et du coup, pour honorer Blanquer, le ministre réactionnaire, on écoute Nick La France de Zep.
Zep, zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance, on n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Parfois ministériel, les nazillons sont lâchés, les pitochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs,
ses Roland et ses réflexes paternalistes.
et donc c'était
par un karaoké continuant l'émission.
C'était Nique la France de Zep, un peu coupé parce qu'on est un peu à la bourre. Et on passe tout de suite aux infos locales avec un nouveau report du procès de l'Amphizède.
Ben voilà, c'est bien, donc j'ai plus grand chose à dire. Coup, c'est
si, gentil. Y a une date.
La date.
Enfin, tu t'es noté deux minutes dessus, donc j'ai des trucs à dire quand même.
J'ai dit que tu vas parler.
Mais pourquoi un tel report?
Et c'est quoi l'Amphizède?
Et c'est quoi un report?
On se calme au studio.
Report, du verbe reporter, qui a déplacé une action dans le temps. Voilà.
Waouh. Wow.
Et donc voilà.
Ça, non, je suis impressionnée. Ouais.
Moi aussi.
Non, tout ça pour revenir. Donc je vous avoue qu'on va pas forcément vous refaire l'histoire. On est combien à bientôt 500 jours d'occupation de l'Amphizède. Parce que je pense qu'à force de vous en parler toutes les semaines, je pense que vous commencez à voir à peu près de quoi il s'agit. C'est ce grand, très grand squat, en fait, cette même parcelle, parce qu'il y a trois squats dessus, occupés par des camarades migrants autour de la station de métro de Cussé à Villeurbanne, et qui est donc en procès depuis deux mois maintenant par la métropole pour évidemment demander son expulsion. Ce qui se passe, c'est qu'on a une avocate qui a déposé ce qu'on appelle une QPC, question prioritaire de constitution, et qui demande donc à vérifier, avant que le jugement puisse avoir lieu, que les articles de loi sur lesquels se base l'accusation, donc la métropole, sont conformes à la Constitution. Et sauf que dans cette procédure, vu que les tribunaux français, comme s'en plaignent régulièrement l'un de nos chers magistrats, sont totalement encombrés, cette procédure prend énormément de temps.
Qu'ils n'hésitent pas à cesser tous ces procès de merde se désencombrer. Hein.
Ah au contraire.
On n'y voit pas d'inconvénient.
Et ça va assez vite de prononcer des relax.
C'est ça. Un jour d'Irolat, ça nous bien, vous allez voir, ça passe bien. Et donc oui, les tribunaux étant vraiment bien encombrés, et en fait, pour qu'une QPC dans le fonctionnement normal, on a besoin que le ministère public en fait donne son avis sur la QPC, et pour cela il a besoin d'énormément de temps. Donc on a déjà obtenu deux reports sur la question.
Pas encore de relax, mais
si t'as des infos par contre on est preneur, hein, mais
qui ont mis énormément de temps aussi à délivrer, et donc là, on a obtenu une nouvelle report jusqu'au 14 mars à 14h cette fois.
Au tribunal d'instance
de Villeurbanne,
rue Fleury-Papillon.
Voilà. Et où on vous attend nombreux et nombreuses pour continuer à soutenir l'Amphizède qui est quand même toujours menacé d'expulsion.
Ça fera que la quatrième fois, mais il y aura encore un petit déj.
Il y aura un petit goûter.
Vin chaud.
Ah. Ok, donc tu fais le vin chaud.
Non, c'est mais je suis sûr que quelqu'un va le faire.
Ok. Et on parle rapidement de la manif lyonnaise.
Ouais,
très vite.
Très très vite. Bon, donc
c'est terminé.
Samedi. Merci. Voilà. Bonsoir. On était encore relativement nombreux, même si les gens ont mis un peu plus de temps que d'habitude à arriver. Par contre, les flics nous ont gazés beaucoup plus rapidement que d'habitude, puisque du moment où on est parti de la place Bellecour et on a fait quelques dizaines de mètres, au bout de 10 minutes en gros, les premières salves de gaz lacrymogène sont arrivées. Il y a eu au début un moment de flottement, mais finalement, toujours est-il qu'il y a eu un cortège anticapitaliste et antifasciste plutôt bien constitué, qui a affiché ses revendications et ses positions, que l'A7 a été, une fois n'est pas coutume, prise pendant quasiment 2 heures. Et puis,